Nous voulons prier.
Seigneur, nous éprouvons le besoin de te demander de disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole. Nous te remercions pour l'action du Saint-Esprit, cette action révélatrice, pénétrante, transformatrice de nos mentalités, nos caractères, de notre perception des choses, de la vie, des personnes, des circonstances. Nous te bénissons pour ce miracle continuellement renouvelé de cette action mystérieuse en nous, en profondeur, par ton esprit. Merci donc de vraiment, s'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, de prendre en main cette étude. Qu'il n'y ait aucun dérapage dans la communication, que nous comprenions ensemble ta pensée et que l'ennemi n'ait aucune part en interférence, en suggestion fausse dans ce moment où nous sommes assis simplement ensemble devant toi. Renouvelle ceux et celles parmi nous qui ont vécu une nuit peut-être un peu difficile. Merci d'être celui qui rafraîchit. Nous échangeons notre faiblesse, nos fatigues, tout ce qui nous apparaît être handicap contre ta force, contre ta grâce. Et nous te bénissons pour ta générosité en Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ensemble dans 1 Samuel 16 qui continue à servir d'air d'envol à notre réflexion. 1 Samuel 16, les versets 13 et 14 que nous lisions samedi matin, versets 13 et 14 du chapitre 16. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Au chapitre 18, nous reprenons là aussi quelques versets, à partir du verset 5, 1 Samuel 18, verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant, en dansant au son des tambourins, des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses mille et David ses 10 000 ». Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1 000 ». Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, « Je frapperai David contre la paroi. » Mais David se détourna de lui deux fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne, il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Verset 28, Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Michal, sa fille, aimait David. Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie son ennemi. Dans le Nouveau Testament et dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 8, Romains chapitre 8, les versets 5 à 9. Romains 8, versets 5 à 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et enfin, un tout petit extrait de Galates 4. Nous avions déjà lu un autre texte de Galates, mais au chapitre 5, samedi, mais cette fois-ci, Galates 4, au verset 29, une allusion au combat dans la famille d'Abraham, Isaac, Ismaël, Agar, Sarah. Et au verset 29, il est dit de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Nous entrons donc dans le troisième tiers de notre réflexion que nous avons entamée samedi matin. Nous avons fait un petit saut de cabri pour des raisons pratiques et nous sommes revenus légèrement en arrière hier matin. Cela nous a en même temps rafraîchi l'esprit sur ce que nous avions déjà dit. Et je voudrais simplement préciser au préalable que les trois dernières études forment un tout. Si nous n'avions que l'étude de ce matin, l'ennemi pourrait s'en emparer. Et là où pour certains d'entre nous cette étude pourrait être très encourageante, pour d'autres, elle pourrait nous conduire à de sérieuses inquiétudes. C'est pourquoi vivez aussi quelque peu dans l'attente de la suite. Il y aura un souci d'harmonisation et d'équilibre et nous ajouterons demain et après-demain certains compléments dans cette formation de l'homme spirituel en David qui donneront une harmonie, un équilibre à cet enseignement. Mais nous revenons donc au cœur de ce qu'est le grand axe de la formation vers la maturité spirituelle, en nous rappelant le caractère pédagogique de la souffrance. Nous avons fortement souligné samedi matin qu'il n'y a pas de croissance, de vraie croissance, sans souffrance. Et cela se vérifie dans bien des domaines, en dehors de l'homme proprement dit, notamment dans la nature. Je pense à l'instant à cette parole de Jésus dans Jean au chapitre 12, où il se sert de manière très directe, comme il le faisait si souvent, pour être très proche de ses contemporains, de ses nombreux villageois de la terre d'Israël. Dans Jean 12, il dit donc à ses interlocuteurs, notamment à ceux qui voulaient lui proposer un chemin plus facile, évitant la croix, en vérité, amen, amen, ceci est vrai, ceci est ferme, cela doit être entendu, reçu, cru. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Si le grain de blé qui est mis en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. C'est certainement un des grands, grands, grands textes des Écritures concernant la formation de l'homme spirituel. Cela me fait aussi penser à un autre texte essentiel dans le Nouveau Testament, simplement pour appuyer ce que nous avons fortement déjà souligné samedi matin. Je veux parler d'Hébreux 5. Hébreux chapitre 5, cela concerne encore la personne de Jésus-Christ, Hébreux 5, versets 7 à 10. Hébreux 5, versets 7 à 10. Où il nous est dit du Seigneur Jésus, dans son humanité, dans son parcours terrestre, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire dans ces jours où il était dans un corps semblable au nôtre, c'est la chair dans une seule de ses dimensions, à savoir simplement le fait d'être dans un corps semblable au nôtre en toute chose, hormis le péché. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, de sa vie humaine, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Un terme ici assez particulier, un autre terme est souvent utilisé, un peu différent, mais ici nous pourrions remplacer le mot par la locution « soumission humble et respectueuse ». Il y a une idée de soumission faite d'humilité et de respect. Et ceci est développé d'ailleurs ensuite. En quoi consistait cette piété ? Il a appris. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est un texte troublant. Et un texte qui, hors contexte, si l'on viole ce qu'est l'analogie des Écritures, peut être très mal interprété. Parce qu'il nous est dit, vous le remarquez, que bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pour nous-mêmes, nous le disons, nous apprenons l'obéissance, c'est vrai, qui fait partie de la maturité spirituelle, parce que nous souffrons. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens certainement majeurs. Mais nous apprenons l'obéissance parce que nous sommes désobéissants. Et il serait tentant, à partir de cette expression dans le texte, de laisser croire que donc Jésus, lui aussi, en apprenti de l'obéissance, a dû passer progressivement de la désobéissance à l'obéissance. Or nous savons, parce que ceci nous est affirmé maintes fois dans les Écritures et parce que la croix de Jésus-Christ aurait été nulle et non avenue, nous savons que le Seigneur Jésus, d'un bout à l'autre de sa vie terrestre, a vécu dans une obéissance sans faille. Donc il faut croire que cet apprentissage de l'obéissance, cette expression, signifie autre chose pour le Fils de Dieu que ce qu'elle signifie pour nous. Les sectes se sont souvent servies de textes comme celui-ci, isolés de son contexte, précisément pour monter toutes sortes de fausses doctrines qui, et ça c'est l'excellence, hélas, des sectes à tendance biblique, si vous voulez, elles diminuent plus ou moins sensiblement la personne de Jésus-Christ dans sa divinité, dans sa perfection, puis dans son rôle expiatoire, etc. Alors, pour comprendre ce texte, il faut essayer de penser, mais avec beaucoup de précaution et de sobriété, à l'éternité passée du Fils dans sa relation avec le Père avant l'incarnation. Cette unité absolument extraordinaire, parfaite, cette égalité totale entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, égalité de nature, d'essence. Et en même temps, pour le Fils, cette soumission volontaire au Père, qui sera aussi la sienne dans l'éternité à venir. C'est notamment 1 Corinthiens 15-28 qui nous dit que lorsque tout aura été soumis, et cela c'est devant nous, au Père et au Fils, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose. Subordination volontaire. Égalité de nature, mais rôle différent dans un travail d'équipe absolument parfait dans lequel le Fils se soumet au Père et dans lequel le Saint-Esprit se soumet au Père et au Fils. Il y a là tout un enseignement que nous ne pouvons pas détailler ici, mais qui est très très important parce qu'ensuite il se retrouve dans le cadre de l'Église, Dans le cadre du couple aussi, il y a là tout un enseignement sur les relations entre mari et femme au niveau de l'égalité, mais de la subordination. Vous savez que l'apôtre Paul s'est appuyé dans cette inspiration au degré le plus ultime dans la rédaction d'Éphésiens sur ces relations à l'intérieur de ce que nous appelons la Trinité pour évoquer les relations notamment qui doivent exister, prédominer à l'intérieur du couple. Et puis voilà donc que volontairement, le Christ va accepter dans sa subordination au Père, de venir au milieu des hommes et d'entrer dans un tout nouveau champ d'expérience comme fils de l'homme. Ce n'est pas rien. C'est quelque chose que le Fils de Dieu ne connaît pas. Accepter de venir au milieu des hommes dans un corps de chair, cela signifie en quelque sorte s'emprisonner dans ce corps. Ça signifie une totale impossibilité d'être en plusieurs endroits à la fois. Il y a là une limitation volontaire dont nous avons de la peine à imaginer tout ce qu'elle pouvait signifier pour le Fils, en amour à notre égard. Être emprisonné dans l'espace et dans le temps. Voilà l'amour de Dieu de manière extraordinaire. Cet amour en acte. Et donc Jésus est entré dans un tout nouveau champ d'expérience. Il fallait qu'il soit soumis au Père sur la terre dans cette nouvelle condition d'existence. Et Jésus savait en quelque sorte qu'elle allait être l'aboutissement terrestre de cette marche dans ce nouveau champ d'expérience. Continuellement, Jésus a vécu dans cette perspective de la croix. Et on peut imaginer, en quelque sorte, et je parle avec beaucoup de précaution, nous sommes là sur un territoire particulièrement sacré où nos lèvres essayent tant soit peu d'exprimer des choses extrêmement profondes. Mais nous pouvons imaginer que il y avait sur la terre, devant le Fils de Dieu, une sorte de grand escalier qui montait vers la croix. Un sommet, un point culminant extrêmement important. Et qu'il fallait que Jésus emprunte marche après marche. Chaque marche étant un peu plus difficile que la précédente, chaque marche donnant lieu à une contestation de plus en plus terrible, fine, subtile, de la part de la puissance des ténèbres, chaque obéissance était plus difficile que la précédente. Et il importait pour notre salut, que le Fils de Dieu, dans son incarnation, ne trébuche pas en cours de route, mais qu'il passe chaque marche, aussi difficile soit-elle et de plus en plus difficile, dans une obéissance volontaire d'amour, dans une soumission totale à la volonté du Père. Et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Et c'est en cela qu'il a appris, parce qu'il vivait dans ce nouveau champ d'expérience. Il faisait face en quelque sorte à des situations qu'il n'avait jamais connues. C'est extraordinaire l'incarnation sur ce plan. Et c'est dans cette dépendance parfaite du Père et par amour pour l'humanité tout entière, dans une hostilité croissante, que Jésus, de marche en marche, a vécu dans l'obéissance, hissant son obéissance parfaite à chaque degré, à un degré encore supérieur. Elle était toujours parfaite, mais elle était hissée progressivement à un nouveau sommet, jusqu'à l'ultime sommet, à savoir la croix. Une très faible comparaison, mais qui peut nous aider, serait celle d'un champion du saut en hauteur ou d'un Sergueï Boubka pour le saut à la perche, qui démarrerait son concours et qui franchirait la barre de centimètre en centimètre ou de 2 ou 3 centimètres en 2 ou 3 centimètres et qui la franchirait chaque fois malgré la difficulté accrue du premier coup sans qu'elle tombe. Jésus-Christ a appris l'obéissance, et le terme obéissance ici, parce que là encore il y a plusieurs termes dans les Écritures qui peuvent se traduire par obéissance, mais ici nous avons le terme majeur, le terme le plus fort. C'est un verbe composé qui signifie littéralement écouter, mais en se plaçant dessous. L'obéissance est d'abord une soumission de l'oreille du cœur, de l'oreille intérieure, à l'autorité de la parole de Dieu. Et c'est le terme qui est utilisé ici. Il a appris d'étape en étape, de degré en degré, d'escalier, de marche d'escalier en marche d'escalier. Il a hissé cette soumission du cœur, de l'oreille intérieure à la parole de son Père, à l'autorité de son Père, jusqu'au degré suprême de la croix. Désobéir, le terme désobéir est composé aussi de deux mots, le même verbe écouter, mais qui signifie écouter à côté avec une idée d'éloignement. J'écoute, j'entends ce qui est dit, mais au lieu de me placer en dessous et d'accepter l'autorité de la parole qui m'est annoncée avec toutes ses implications pratiques, je l'écoute mais je fuis, je m'écarte. C'est un message fantastique. Et nous avons besoin certainement de davantage penser à tout ce qu'a pu signifier l'incarnation dans ce domaine. Alors, vous comprenez, si je souligne ceci ce matin, c'est pour dire que dans la mesure où notre parfait Sauveur, celui qui est devenu le chef de l'Église, qui est son corps et dont nous sommes les membres, si lui est passé par cette école de l'obéissance, au travers de la souffrance, lui qui était parfait, lui dans lequel il n'y avait pas une ombre de péché, à combien plus forte raison pour nous qui naissons dans le péché, qui naissons dans la désobéissance, dans l'esprit d'autonomie, dans l'indépendance. Nous avons besoin d'apprendre l'obéissance en passant par l'école de la souffrance. Là aussi, dans ce domaine, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et ça, ce n'est pas un message, disons-le au passage, qui est à la une, qui est le best-seller des messages de la famille évangélique aujourd'hui. Et c'est regrettable, parce que c'est un message absolument fondamental. Alors, ceci dit, pour bien étayer tout ce que nous avons déjà partagé samedi, pour que nous n'ayons pas le sentiment que le prédicateur a un petit peu tendance au masochisme ou à je ne sais quel centrage maladif sur la souffrance. Non. Non. C'est un enseignement essentiel des Écritures à côté duquel nous n'avons pas le droit de passer. Ceci dit, nous verrons, je le redis, demain et après-demain, qu'il y a un équilibre et que Dieu, j'anticipe, pour assurer que Dieu, à côté des Saül, qu'il place sur notre route, nous actualiserons, c'est aussi, et nous l'en bénissons, placer des Jonathan. Ça, c'est l'équilibre de Dieu. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas, dans notre enseignement, à la fois parler de Saül et de Jonathan et les mélanger. La pédagogie veut qu'on les prenne un après l'autre, n'est-ce pas? Alors, vous vous souvenez que nous avions fait comme remarque préliminaire toute une approche de cette sorte d'interpénétration de la tentation et de l'épreuve, avec notre pièce de monnaie qui annonçait le thème de la souffrance, puisque nous étions d'accord pour convenir, Bible en main, qu'il y avait dans l'épreuve comme dans la tentation tout un programme de souffrance à divers degrés, suivant l'intensité de l'épreuve, suivant l'intensité et le genre de tentation. Nous avons vu que Dieu ne tente pas. Cela appartient au programme de la puissance des ténèbres, qui veut la destruction, qui veut la mort, qui veut le péché, qui est animé de sentiments et de plans infernaux, alors que Dieu, lui, nous éprouve, parce qu'il est bien entendu animé des sentiments célestes les plus purs qu'il veut construire et que la construction de la vie, nous l'avons dit, passe aussi par des dépouillements si le grain de blé qui est en terre ne meurt. Puis nous avions conclu, en nous posant cette simple question, bon, mais la fameuse pièce de monnaie, la pièce de 5 francs, je l'avais sortie de mon porte-monnaie, de quel porte-monnaie sort cette pièce appelée souffrance, constituée de la part de la puissance des ténèbres, la tentation, et de apparemment, la part de Dieu que nous appelons l'épreuve. Et à notre grande joie, c'était là une note finale heureuse, nous avions dit que la pièce se trouvait, bien entendu, dans le porte-monnaie de Dieu, le grand vainqueur de la puissance des ténèbres, le Dieu parfaitement souverain, celui que les Écritures, surtout dans certains livres de la Bible par excellence, Ésaïe, Agée, Zacharie, Malachie, celui que les rédacteurs inspirés appelleront avec beaucoup de joie et de solennité l'Éternel des armées. Il y a là toute une dimension quant à la souveraineté de Dieu. Alors nous allons commencer à appliquer cet enseignement de type ou de dimension doctrinale à cette guerre des deux trônes. Je vous avais annoncé la guerre des deux trônes. J'ai toujours dit que si j'avais eu à faire de la mise en scène pour le cinéma, il me semble qu'un beau film sur la guerre des deux trônes, ça sonne bien, aurait été plein de suspense. La guerre des deux trônes, cette confrontation terrible entre David et Saül, entre celui que, en quelque sorte, le Nouveau Testament appellera un vase d'honneur, et l'autre, Saül, un vase d'un usage vil. Je cite ici 2 Timothée 2:20, où, en image, l'apôtre indique qu'il y a dans une maison des vases, les uns d'un usage vil, les autres vase d'honneur, et Dieu se sert des deux. Dieu se sert des deux. Mais bien entendu, l'apôtre Paul soulignait de la part de Dieu qu'il est bien préférable de pouvoir être utilisé dans la plénitude de la volonté de Dieu en tant que vase d'honneur plutôt qu'en tant que vase d'un usage vil. Et nous avons dans 1 Samuel essentiellement 18 à 30 environ, ça dépend comment on lit le texte, mais une dizaine de tentatives d'assassinat de David par Saül. Je ne sais pas si nous pesons bien les choses. Hein. Nous lisons, je le dis souvent, nous lisons facilement la Bible en TGV, on passe là-dessus, on trouve que c'est très intéressant, mais nous avons besoin d'apprendre à nous incarner, à nous identifier au personnage. Vous vous rendez compte un petit peu ce qui s'est passé là entre 18 et 30 ans, à un âge clé de la vie d'un homme, une dizaine de tentatives d'assassinat. Et ça, c'est ce qui nous est connu. C'est ce que le Saint-Esprit a cru bon, de la part de Dieu, de sélectionner pour notre formation, pour notre gouverne, pour notre enseignement. Pendant 10 ans, nous assistons à la lutte du roi que j'appellerai le roi selon la chair. Et ici, j'utilise le terme chair dans une dimension qui va beaucoup plus loin que celle que nous mentionnions tout à l'heure au sujet de Jésus. Et là, je dirais que c'est un petit peu facile d'en saisir le sens, puisqu'il se trouve qu'en hébreu, le mot « chair », c'est le mot « bazar ». Bazar. B-A-S-A-R, transcrit, si vous voulez, en français. Bazar. Et c'est vrai que la chair, dans le sens où j'utilise le mot maintenant, c'est un drôle de bazar. Que de problèmes n'avons-nous pas avec la chair? Alors le problème, c'est que dans les Écritures, le terme chair a plusieurs significations. En tout cas, on peut trouver jusqu'à 5 significations du mot chair. Et c'est une fois de plus le contexte qui va déterminer le sens. Mais la signification majeure, celle qui est la plus importante pour celui qui est disciple de Jésus-Christ, ou celui qui recherche Dieu, qui va se tourner vers Jésus-Christ, est celle que nous voyons maintenant, et que je traduirai de cette manière, selon un remarquable commentateur anglo-saxon, soit l'état de l'homme irrégénéré, soit dans l'homme régénéré, né de nouveau, la condition de cette partie de son être qui résiste encore à la grâce, et l'auteur ajoute très justement, la chair est notre nature déchue, irrégénérée et irrégénérable. Notre moi propre, cet ego qui nous chatouille continuellement, cet hippopotame moi, comme je le disais, cette grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et nous savons très bien à quel endroit ça nous chatouille hein, dans nos vies. Il suffit de si peu de choses pour que ça se gonfle à quelque part, ou encore que ça se rebiffe à quelque part, la chair. Lutte donc du roi selon la chair, selon le cœur des hommes, du roi déchu contre le roi selon le cœur de Dieu. Lutte de la chair contre l'esprit. Saül, qui va devenir de plus en plus charnel, va lutter à mort contre ce qui, en David, est spirituel. Il y a dans ce caractère en formation de David des dimensions qui dérangent profondément Saül. Quelque chose qui est incompatible à ce qui se développe chez lui dans son propre caractère. D'où une inimitié de plus en plus terrible, le crescendo d'une haine de plus en plus épouvantable. Parce que, nous allons le voir, en Saül, derrière Saül, se cache quelqu'un d'autre qui en veut terriblement à ce David qui a été l'objet de la faveur et du choix souverain de Dieu. Et là, Nous avons lu tout à l'heure dans Romains 8, 7, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Comme nous avons de la peine à comprendre certains textes doctrinaux d'une forte densité et qui ont parfois un langage qui nous dépasse quelque peu. Mais bien aimé, notre salut prévu par Dieu, en ce qui concerne notre compréhension spirituelle, disons-le, est 9 fois sur 10 ailleurs dans les Écritures. Et ce n'est pas pour rien que l'Ancien Testament nous a été donné. L'Ancien Testament est non seulement la semence et la graine qui va porter d'abord la fleur et le fruit épanoui dans le Nouveau Testament, mais c'est aussi tout un tissu, toute une succession d'images fortes, très concrètes, des réalités spirituelles qui nous sont présentées dans le Nouveau Testament. Ceux et celles qui étaient là l'an dernier l'ont vu dans notre analyse de l'histoire de Naomi, Ruth et Elimelech, etc. Nous avions des enseignements fantastiques qui sont en toutes lettres dans le Nouveau Testament, mais avec un autre vocabulaire qui, c'est vrai, parfois est un peu plus difficile à approcher. Alors, lisons et étudions la Bible dans son entier. Et nous allons découvrir des choses extraordinaires dans les liens et la compréhension de la doctrine. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Galates 4, 29, on a vu ce conflit entre Ismaël, le fils de l'effort propre, qui est issu de tous les tripotages, de toutes les manipulations, de tout le système D, comme Decker, de tout le bricolage dont l'homme est capable lorsqu'il veut faire les choses de Dieu, en dehors du temps de Dieu, sans attendre le moment de Dieu, dans l'impatience de l'incrédulité. Ismaël, d'un côté, donc le fils de l'effort propre, qui lutte contre le fils de la grâce, le fils de l'esprit, en quelque sorte, de l'action de Dieu qui intervient à un moment précis selon le plan de Dieu, le meilleur plan de Dieu. Il suffit de lire certains textes de la Genèse pour bien comprendre cette situation conflictuelle. Et puis Galates 5, 17 que nous avons lu samedi matin, « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, l'esprit en a des contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Ça c'est... Nous avons la démonstration de ce texte dans cette confrontation entre David et Saül. Alors la question qui se pose à partir de ce que nous venons de souligner, de soulever, qui se cache derrière Saül? Pendant des années, ma réponse était prompte parce que j'avais une sérieuse molère contre Saül. Ah, quand je lisais ces textes, j'en voulais. Je ne veux pas dire que je n'en veux plus à Saül aujourd'hui. C'est un personnage qui m'est très sympathique au début de son histoire, comme nous l'avons dit, mais franchement, à partir du chapitre 18, c'est pas mon copain. Et je pense que ce n'est pas le vôtre non plus. Mais il fut un temps où immédiatement je dis, oh, c'est le diable. Satan qui est là, derrière. Et effectivement, Satan est derrière Saül. Pour éliminer David, d'une manière ou d'une autre, pour lui faire commettre une faute qui va disqualifier David à jamais. Tout simplement parce qu'il se trouve que non seulement David s'inscrit par excellence dans la lignée, dans l'ascendance de Jésus-Christ, fils de David selon la chair, début de l'épître aux Romains, mais parce que, de surcroît, David est un maillon important, crucial, stratégique, fondamental dans cette lignée. Alors vous comprenez combien l'ennemi s'intéresse à ce maillon particulièrement stratégique. D'ailleurs, il est aussi bon de lire l'Ancien Testament à partir de Genèse 12 dans cette perspective. Et de chercher à voir cette lutte de la puissance des ténèbres qui a essayé à tout prix de rompre cette chaîne constituée de maillons choisis de Dieu et qui conduisait au Fils de Dieu. Généalogie de Jésus-Christ, etc. Hein, vous connaissez cela. Ça a été une lutte terrible. Et il y a des moments où l'on tremble. Lorsque il reste un petit maillon extrêmement fragile. Je pense à l'histoire de Joas, n'est-ce pas, caché, petit bébé, alors que toute sa famille, ses frères, tous ceux qui pouvaient en quelque sorte régner, n'est-ce pas, vont être assassinés. Et il est caché jusqu'à l'âge de 7 ans. Et il est là le dernier maillon, c'est l'enfant tout à fait fragile. On tremble. Mais le Seigneur veille. Et puis à l'âge de 7 ans, on montre Joas qui va entrer dans sa fonction en quelque sorte, tout en étant enfant, mais il y aura quelqu'un au-dessus de lui pour guider tout cela dans sa fonction royale. Satan est derrière. Mais faut-il souligner que Dieu est l'origine première de tout cela. C'est-à-dire que Saül est en réalité l'instrument de Dieu, non pour faire tomber David, mais pour crucifier la chair et pour former peu à peu en David l'homme spirituel. Dit d'une autre manière, si vous voulez, puisque Saül ne peut plus servir librement, avec joie, en vase d'honneur, à l'accomplissement du plan de Dieu, il va quand même servir, malgré lui, à quelque chose. Dans sa déchéance progressive, Dieu ne le met pas sur la touche comme une loque, il ne le marginalise pas en disant « bon, ben, je ne m'intéresse plus à tout ». Ah non, Dieu va l'utiliser dans sa parfaite et totale souveraineté. Et Dieu va donc se servir de Saül le charnel pour combattre, en quelque sorte, le Saül qui est lui aussi tapis au fond du cœur de David parce qu'il y a un Saül qui est tapis au fond de chacun de nos cœurs. Le problème, c'est est-ce que nous allons accepter à la fois le diagnostic de Dieu et son entreprise pour que ce Saül dans notre vie soit vraiment crucifié de manière à ce que lui apparaisse. Alors, quelles sont les preuves que nous pouvons donner à de telles affirmations? Bien, les preuves sont dans l'histoire de David, dans cette confrontation, et elles arrivent très tôt. 1 Samuel 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Satan. Vous êtes d'accord? Merci. Disons que c'est vrai que quand on lit le texte, on se frotte les yeux. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas combien de personnes j'ai rencontrées durant ces dernières années de ministère qui, après cette étude, sont venues me voir en me disant « Mais ça fait 30 ans que je cherchais une réponse ». Je trouve que c'était un peu long quand même. Mais qui ont été intrigués par cette expression « un mauvais esprit venant de l'Éternel ». Et comme ça nous dérange terriblement aux entournures, Dieu qui est un excellent pédagogue et qui ne voudrait pas que nous soyons tentés de penser que c'est un copiste qui était amoureux de quelqu'un et qui, quand il est arrivé à ce point du texte, a laissé déraper sa plume, va répéter. Les serviteurs de Saül lui dirent « Voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. »
c'est une répétition.
Dieu enfonce le clou. C'est quelque chose qui est tellement difficile à accepter au départ que il y a la répétition. S'il n'y avait qu'une répétition de deux, ce serait déjà extraordinaire. Il y a bien des textes dans l'Ancien Testament où d'ailleurs on n'a pas dans le texte traduit répété parce que ça aurait été très lourd. Mais vous avez des centaines de textes dans l'Ancien Testament qui contiennent une répétition d'une expression de foi. Et cela sous-entend que c'est un message essentiel, je l'ai déjà dit, de la part de Dieu. Mais ici, parce que c'est vraiment très gros, vous avez au verset 16 une troisième mention. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sait jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, vous voyez, il n'y a pas moyen d'y échapper. Plus moyen de penser que c'est une erreur éventuelle de copiste, que peut-être dans d'autres manuscrits ce serait indiqué autrement. Non, c'est indiqué trois fois. Et puis, si vous allez au verset 23, alors trois fois, vous savez, c'est le sommet. Hein, il se trouve que là, c'est ramassé donc sur les versets 14 à 16, hein, vraiment dans la même pensée, trois fois. Alors là, c'est le sommet. Hein, c'est vraiment le superlatif absolu de la langue hébreu, hein, n'est-ce pas? On ne peut pas faire mieux. Saint, saint, saint et l'éternel, c'est... il n'y a pas de plus grand sommet. Mais pourtant, à la fin du texte, verset 23, lorsque le mauvais esprit venant de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Si vous allez au chapitre 18 et au verset 10, le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül. Il est question ailleurs dans les Écritures de mauvais esprit. Mais curieusement, tout spécialement dans cette histoire de David confronté à Saül, le rédacteur inspiré a trouvé bon, Dieu l'a voulu ainsi, d'enfoncer le clou et de bien préciser chaque fois qu'il s'agissait d'un mauvais esprit venant de Dieu. Si vous allez enfin au chapitre 19, et au verset 19:9, alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül. Six fois. Deux fois trois. Un double superlatif, en quelque sorte, dans ce temps de la formation de David. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, je pense à un livre qui est actuellement dans les librairies depuis déjà pas mal d'années. Livre évangélique, et dans lequel l'auteur, spécialiste dans le domaine de la psychiatrie, ce n'est pas un de ces livres qui appartiennent à la grande vague des livres centrés sur la psychologie, la psychiatrie actuellement, il les a précédés. Et dans ce livre, l'auteur, à un moment donné, fait une courte allusion à cette histoire et dit, oh, vous savez, ça c'est le langage de la Bible. À l'époque, on n'avait que ce seul langage pour parler de phénomènes de désordre dans le domaine du psychisme humain, mais aujourd'hui, il faut comprendre le texte autrement. Ah, il est très intelligent, cet auteur. Sans doute est-il plus intelligent que Dieu. Si le texte biblique nous dit par six fois que ce mauvais esprit venait de Dieu, ben je m'incline. Ce mauvais esprit venait de Dieu. Que le fait que ce mauvais esprit vienne de Dieu se traduise dans des comportements que l'on retrouve dans le domaine psychiatrique, ça c'est une autre chose. Il y a des comportements actuels de désordre psychique qui sont d'origine démoniaque, là où des comportements assez similaires ont d'autres raisons qui n'ont rien à voir directement avec la puissance des ténèbres. Et nous, là, nous sommes sur un terrain miné où nous devons faire très attention. Mais ici, nous sommes manifestement en présence d'une situation où effectivement il s'agit d'un mauvais esprit venant de Dieu, mais nous allons essayer de comprendre, et l'action de ce mauvais esprit venant de Dieu va se traduire dans des conséquences que l'on trouve encore à l'heure actuelle dans un certain nombre de comportements, de désordres psychiques, etc. D'ailleurs, nous donnerons tout à l'heure ou demain matin des termes actuels dans le domaine des maladies de l'esprit qui collent tout à fait avec l'attitude de Saül à son époque. Alors, je voulais le dire, parce que là, nous touchons à ces dérives subtiles et très actuelles au sein du monde évangélique par rapport à ce qu'affirment les Écritures. Ne faisons pas dire à Dieu autre chose que ce qu'il a voulu nous dire, d'autant plus quand Dieu insiste de cette manière. Alors, comment le comprendre? Et je terminerai là. Il nous faut savoir, et nous le savons en fait, que Satan et les esprits malins ne peuvent agir sans la permission de Dieu, sans l'autorisation de Dieu. Et en fait, ce mauvais esprit a été autorisé directement par Dieu dans sa souveraineté à s'emparer de Saül comme jugement. Nous aurions peut-être un peu plus de peine à affirmer ceci si nous étions en présence d'une situation tout à fait isolée dans les Écritures. Parce que moins il y a de textes qui abordent des questions délicates, plus nous devons être prudents dans nos interprétations. Et c'est ce qui fait qu'il faut éviter de construire toutes sortes de doctrines très dogmatiques qui divisent l'Église lorsqu'elle ne s'appuie que sur un texte, par exemple, des Écritures, et d'autant plus quand il s'agit de questions périphériques. Mais ici, nous avons quantité d'autres textes des Écritures qui vont dans le même sens. Par exemple, alors on va en prendre un qui est flagrant, dans 1 Chronique 21, verset 1er, pour rester dans l'histoire de David, 1 Chronique 21, verset 1er, un triste chapitre, qui commence d'ailleurs tristement, 1 Chronique 21, verset 1er, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Alors retenons bien ceci, hein, il est question de Satan qui se lève et qui excite David. Gardons un doigt ou une marque à cette page et allons simplement dans 2 Samuel chapitre 24 verset 1er, 2 Samuel chapitre 24 verset 1er, où nous avons le même texte, le même événement, la même histoire, dans sa complémentarité, et c'est là que les textes sont complémentaires, et donc nous éclairent, et curieusement, le texte commence un peu différemment. Là où dans 1 Chronique 21, il est dit « Satan se lève contre Israël », il nous est dit ici « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita ». C'est le même verbe. « Il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». Alors les gorges chaudes, qui veulent voir la Bible comme un livre tissé de contradictions, disent « Mais voyez, deux textes qui parlent du même événement et qui sont contradictoires. D'un côté, c'est Satan qui excite David, de l'autre, c'est Dieu qui excite David. Ça ne peut pas être Satan et Dieu à la fois. Votre Bible est un livre cousu de fil blanc. » Sauf lorsque, dans l'analogie des Écritures, on constate, et heureusement pour nous, que Dieu est parfaitement souverain. Dans le texte d'un Chronique 21, nous avons l'origine première. Celui qui a la pièce dans la poche, dans le porte-monnaie, c'est Dieu. Et bien entendu, c'est Dieu qui excite. Mais rien n'empêche Dieu de se servir de la puissance des ténèbres pour exciter. Et nous avons tout simplement, dans le texte de 2 Samuel 24, l'instrument direct de l'excitation, à savoir Satan lui-même. Deux textes complémentaires. Je pense que certains d'entre vous ont aussitôt, sans venir à ce texte, pensé alors au grand exemple des Écritures, Job. Job chapitre 1 et 2. Mais le problème, c'est que quand on lit des textes comme 1 Samuel 16, 17, 18, on ne pense pas à Job. Et souvent parce que nous lisons la parole de Dieu de manière trop fractionnée, de manière trop épisodique, de manière trop désordonnée, nous avons beaucoup de peine à mettre tous ces textes ensemble. Vous voyez, d'où l'importance de vraiment pénétrer l'ensemble des Écritures. Alors vous avez un dernier texte, je voudrais quand même le donner encore, dans 1 Roi 22, 19 à 23, c'est une ouverture là sur ce qui se passe là-haut. 1 Roi 22, 19 à 23, il est question d'un prophète Michée, mais qui n'a rien à voir avec le prophète dont nous avons le texte dans les Écritures, un autre, un des courageux, alors que le prophète Élie se croyait tout seul. Eh bien, ce texte nous montre qu'il y avait, à son époque, au moment où il se plaignait, il y avait un autre homme de Dieu, très courageux, Michée, qui a vraiment risqué sa vie dans sa fidélité, dans son souci d'intégrité à l'Éternel. Et Michée donc dit au roi Akab, écoute donc la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors nous disons simplement, en conclusion, à cette partie, c'est donc avec la permission de Dieu et sous son contrôle constant que ce mauvais esprit va se dresser par Saül contre David pour sa formation en vue du règne. À l'heure prévue par Dieu, Saül mourra. La formation de base fondamentale sera terminée. Alors ce que nous verrons demain matin, c'est l'actualisation, en nous servant aussi de quelques autres illustrations bibliques et de quelques illustrations de la vie courante et de l'histoire de l'Église. Et puis nous équilibrerons tout cela en allant un peu plus loin et en voyant jusqu'à mercredi matin les autres instruments que Dieu a utilisés pour former David et qui ont été des sortes de contrepoids montrant la beauté de la main de Dieu qui n'est jamais trop pesante pour nous écraser et qui, au moment même où elle permet des circonstances, des situations parfois tellement difficiles, par ailleurs, nous révèle le beau sourire de Dieu pour que nous ne soyons pas tentés de nous enfoncer dans un découragement destructeur dont l'ennemi profiterait aussitôt. Nous nous arrêtons donc là maintenant et je vous encourage à dire quelques mots au Seigneur comme nous l'avons fait les autres matins, des prières brèves, concises, simplement le mot de Dieu à notre cœur et je terminerai moi-même ensuite.